poser une question.
Oui.
En fait, l'exégèse franciscaine pour la Bible, est-ce qu'il n'y a pas une différence tout de même entre la prédication proprement dite, comme Antoine de Padoue, et puis le commentaire, je pense au commentaire sur Saint-Luc de Bonaventure ou d'autres, qui sont quand même deux niveaux différents de l'abord biblique.
Ah oui, alors effectivement, je n'ai pas parlé de la prédication. Je n'ai pas parlé de l'exégèse de la prédication. Alors, j'essaie de montrer effectivement qu'il y a deux types d'exégèse qui sont courants au XIIIe siècle notamment. L'exégèse, des livres, enseignement universitaire, etc. Puis l'exégèse de la prédication qui part sur des présupposés un petit peu différents. Or, alors vous avez cité le cas d'Antoine de Padoue. Alors là, c'est absolument passionnant. Parce que justement, on pourrait plutôt rapprocher l'exégèse, pas l'exégèse, la prédication, les sermons, les fameux sermons d'Antoine de Padoue, de l'exégèse des écoles, plutôt que de la prédication. Lisez un sermon, alors, si vous êtes prédicateur dans une église, essayez de lire un sermon d'Antoine de Padoue à vos ouailles. Vous allez voir la réalité. Oui, effectivement, là, ce que fait Antoine de Padoue dans ses sermons, il donne une matière, qui est une richesse prodigieuse pour les prédicateurs, pour les commentateurs, pour tout le monde, là, effectivement. C'est un produit de son enseignement hors les studias. Je pense, il a dû reprendre tous ces éléments-là dans les studias, mais c'est plus un... Comment peut-on dire? Alors, un recueil... De matériaux, voilà exactement, un recueil de matériaux pour les prédicateurs et pour les exégètes plutôt que oui, pour les prédicateurs, puisqu'effectivement, à chaque fois, il tient grand compte des moments liturgiques. Et donc, c'est ce qui donne d'ailleurs le alors, il part des quatre leçons, des quatre textes lus lors d'une solennité particulière pour construire son serment. Donc, c'est ce qui donne ce. Ah, mais on ne peut pas les lire tel quel.
Mais on a l'impression que ce sont presque des cours.
Oui.
De prédication plutôt. On imagine quand même difficilement des vraies prédications.
Ah oui, mais là, c'est impossible. Enfin, essayez vous-même de lire à haute voix cela. Bon, mais c'est passionnant. C'est très riche, mais on imagine, même un public de maîtres de la faculté n'aurait pas pu recevoir cela. Là, on a effectivement une prédication. Des exemples de prédication destinés aux universitaires, alors c'est savant, etc., mais ça n'a rien à voir. Il y a toute la phraséologie de la prédication, enfin tout le liant indispensable pour une bonne prédication, tandis que là vraiment c'est du matériau.
Mais on peut faire une comparaison semblable entre les commentaires de Bonaventure, explicitement commentaires, donc œuvre d'enseignement, et puis sa prédication à Bonaventure. Parce qu'on la possède aussi.
Oui.
Or, c'est une prédication qui est très variée, puisqu'il y a à la fois prêche au peuple, au frère, ou à l'université, ou au roi.
Oui. Absolument. Oui, non, mais là effectivement, il serait intéressant de reprendre l'exégèse des sermons et de voir comment s'y prend Bonaventure. Je n'ai pas fait cette démarche, mais elle me semble très intéressante. Très intéressante, notamment pour les textes qu'a commenté dans le cadre universitaire Bonaventure, de voir s'il utilise ou non. Enfin, j'ai lu beaucoup de sermons de Bonaventure, mais je n'ai pas fait la recherche thématique sur ce plan-là, et je crois que c'était vraiment une idée tout à fait stimulante.
Voilà. Chez Antoine, il y a à la fois toute la science et des allégories extrêmement subtiles, parfois, mais il y a aussi un sens spirituel.
Ah ben bien sûr.
Profond.
Ah oui, bien sûr, mais alors là, effectivement...
Une grande piété.
Mais, tout à fait. Là, effectivement, je n'ai pas suffisamment mis en valeur cet aspect-là, mais là, je le disais au début, l'exégèse du XIIIe siècle est scientifique. Bon, alors j'ai insisté beaucoup là-dessus parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est une exégèse confessante, et notamment, enfin, chez Antoine de Padoue, bon, il y a des passages d'une beauté remarquable sur le plan spirituel. Hein, donc là, là, tout à fait, ouais.
Au sujet de la maman, tout à l'heure, je pensais au terme babillé.
De
babillé.
Ah, babillé, oui, effectivement, c'est mieux que balbutier, oui. Babillé, oui. Bah, merci, oui, j'emploierai. Parce que gazouillé ajoute une image qui n'est pas dans balbutien, ça. Babillé, c'est bien, voilà. Voilà. Monsieur Chang, nous sommes donc en plein dans des questions de poétique, là.
Enfin, une dernière question, mais ça dépasse un petit peu le XIIIe, XIVe siècle. C'est la génération suivante va quelquefois avoir une prédication populaire presque truculente.
Ah oui.
Chez certains, le type même, c'est Olivier Bayard, mais il y en a eu d'autres à l'époque aussi.
Oui, c'est
une continuité là-dedans, je ne sais pas. Non.
Alors effectivement, donc il y a tout le problème des débuts de la prédication. Enfin les fameux sermons aux poissons et des choses de ce genre-là. Bon, alors mutatis mutandis, effectivement, notamment dans une prédication un peu libre dans son esprit. Mais enfin, cet esprit-là, c'est donc essayer de transmettre un message en utilisant les arguments, enfin les plus susceptibles d'être compris par le peuple. C'est exactement l'histoire de la mère qui babille auprès de son enfant. Ça, effectivement, il y a aussi le tempérament du prédicateur. Il y en a qui sont plus truculents que d'autres, d'autres qui sont très sérieux, très très coincés. C'est tout ça. Mais enfin, l'essentiel est quand même de faire passer un message spirituel important. Et je crois que dans la prédication franciscaine, bon, je ne connais pas ceux du XVe siècle, hein, mais au XIVe siècle, on a vraiment une continuité dans la transmission d'un certain nombre de données spirituelles à la portée du peuple. Voilà. Oui ?
Moi, je vais poser une question sur l'apprentissage du grec.
Sur la ?
L'apprentissage du grec.
Oui.
Parce qu'on dit souvent justement qu'au Moyen-Âge, on ne connaissait pas beaucoup le grec. Or, vous en parliez... Vous parliez de la connaissance du grec
oui.
de certains franciscains. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire par quel relais cela se faisait ?
Donc là, effectivement, il y a des études anciennes que je n'ai pas relues à l'occasion, mais le relais le plus fréquent, ce sont les orientaux, les byzantins, qui viennent s'établir en Occident, et donc qui, alors non pas sous forme de cours en bonne et due forme, qui donnent des éléments de langue grecque aux... Ah oui,
un
oui.
Un peu comme ça se fera alors avec les humanistes, un peu plus tard.
Absolument. Oui et non, avec les humanistes, il y aura quand même la création de chaires de grec. Là, on est plus dans la... Alors, c'est la même chose avec l'hébreu d'ailleurs. Et il est très intéressant de trouver des témoignages concrets. Maintenant, ça me revient. Des témoignages concrets de cela, par exemple, on a des transcriptions. Notamment des transcriptions du pater. Alors, du grec en caractère latin, mais également du latin en caractère grec. Ça, c'est tout à fait remarquable. On a également, alors là, je l'ai vu pour l'hébreu, je ne l'ai pas vu pour le grec, mais je crois qu'il y a l'équivalent, effectivement, dans un manuscrit, mais je ne me rappelle plus lequel, du fond grec de la Bibliothèque nationale, où on a véritablement un cours. Alors, des notes de cours, c'est un psautier en hébreu, hein, qui est un texte massorétique sans caractéristique particulière, mais entouré de notes prises rapidement par un étudiant, qui donne l'équivalent en vernaculaire, qui donne la traduction latine, qui fait une remarque grammaticale. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été saisi à l'audition d'un maître, non pas dans une salle de cours, mais probablement dans une séance un peu. Alors je pense que pour le grec, c'est exactement la même chose, effectivement, et il y a un certain nombre de manuscrits. Alors j'ai étudié ça effectivement dans une étude sur l'enseignement du grec et du latin, du grec et de l'hébreu, avant le Collège de France, là, au Moyen-Âge. Donc là, il y a des choses intéressantes. Voilà, merci pour votre question. Oui ?
Juste un détail. Tout à l'heure, ce que vous avez démontré avec le diapason, vous avez dit à partir de là... l'idée de harmonie.
Oui.
Vous pouvez répéter un peu, je sais pas.
Ah oui, donc alors c'est
tout à fait
saisi, très bien.
Oui.
Voilà. Donc quand on émet un son musical avec un piano par exemple, hein, vous jouez une note sur un piano, en dehors de la note de basse, vous jouez un, je sais pas quoi, un do ou un ré, vous jouez un do. Vous allez entendre un do fondamentalement, mais si vous prêtez l'oreille, vous allez entendre d'autres notes. Que vous pouvez identifier ou que vous n'identifiez pas selon votre, déjà selon votre oui et selon vos connaissances musicales. Bon, normalement, c'est do, sol, etc. Hein, donc ça se prolonge comme ça. Donc Pierre de Jean-Olieu, franciscain de la seconde moitié du XIIIe siècle, explique de cette manière le passage du sens littéral au sens spirituel. Hein, vous voyez ? Donc, et l'intérêt de cette explication, c'est qu'il n'y a pas de rupture. De même que dans le son harmonique, on entend en même temps que la fondamentale, les autres sons, de même, dans le sens spirituel, on entend en même temps les autres sens spirituels, voilà, qu'ils soient de divers ordres. Voilà. Bah, écoutez, merci à vous.
Voilà. Écoutez, je voudrais simplement dire, en conclusion, mais que je pense qu'il y a besoin de gens comme vous, beaucoup dans notre société d'aujourd'hui, de gens qui, des médiévistes notamment, qui nous font bien comprendre que le Moyen-Âge n'était pas l'âge de l'obscurantisme, comme parfois dans certains endroits de la culture, on veut nous dire, et combien en fait on arrive maintenant seulement peut-être à avoir une exégèse biblique qui correspond à ce qu'il faisait peut-être au 12e et 13e siècle, en fait, avec tous les progrès.
Oui, mais ça c'est...
l'exhortation de Benoît XVI sur la
parole. Voilà, oui, tout à fait, oui, mais là aussi c'est un grand texte important. Oui. Tout à fait.
Alors je voulais vous dire que si vous voulez vous prolonger dans cette réflexion, parce que là, j'en ai dû écourter un peu, en fait, je vois bien
l'importance
de choses. Le fascicule du supplément, il y en a qui sont à votre disposition à la fin de la salle, sortie de la salle. Et alors, je vous remercie
de
nous avoir apporté.
Merci.
Deux petits mots, mais après je vous lâche. Deux petits mots. Pour ceux qui veulent aller encore au-delà, alors vous avez le petit fascicule, mais je sais que le professeur Giberdaan, l'année prochaine, donc, dans le cadre de l'école franciscaine de Paris, va donner un cours sur le même sujet.
Alors, exactement.
Dans le second semestre. Donc pour ceux qui souhaitent approfondir, vous aurez le cours à partir du mois de février.
Et je ne me rappelle plus, mais oui, c'est en 2016.
Du centre Sèvres des Jésuites.
Voilà, ouais, au centre Sèvres, tout à fait. Voilà.
La chaire franciscaine qui est installée, un peu comme, rappelez-vous, Alexandre de Halès.
Bah oui, mais donc, je vais être très.
Nous avons installé une chaire au centre Sèvres, une chaire franciscaine au centre Sèvres. Bon. Et maintenant, je voulais juste, avant de vous laisser, attirer votre attention sur notre prochaine rencontre qui aura lieu cette fois-ci, ça sera exceptionnellement un vendredi. Vendredi 29 mai. Autour de la thèse de Laure Solignac qui vient de paraître, la thèse qui s'intitule « La voie de la ressemblance, itinéraire dans la pensée de sa bonne aventure ». Hein, la thèse vient de paraître, il nous apparaît important de créer un petit événement autour de ce texte, qui n'est pas forcément facile à lire. À ce propos-là, je vous montrerai la recension qui va apparaître dans le prochain numéro d'Études franciscaines, une recension signée Luc Mathieu. Et donc, ce soir-là, on pourra essayer un petit peu d'approfondir ce texte et puis aussi de mesurer les enjeux qu'une telle pensée peut donner pour une pensée aujourd'hui. Et donc, outre Luc Mathieu qui sera là, il y aura évidemment Laure Solignac, il y aura aussi un dominicain, le frère Thierry Dominicain Brecht. C'est intéressant de faire un dialogue aussi entre franciscains et dominicains. Ça promet d'être vivant, intéressant. Donc, retenez cette date, vendredi 29 mai. Ça sera cette fois-ci à 19h et pas 18h30. Voilà.